100 ans d'histoire. Innovation scientifique, relations internationales et succès culturel. Jean-Sara Méa, historien, raconte les années anniversaires de 2025. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans la chronique de Jean-Sara Méa, nous allons vous parler de l'anniversaire des 80 ans du droit de vote des femmes en France. Alors, pourquoi si tard, Jean-Sara Méa ?
Oui, excellente question. Alors, c'est donc la première fois que 10 millions de Françaises votent. C'est début mai 1945 pour les élections municipales. Ce qui pose un petit problème d'ailleurs à l'époque, parce que début mai, les prisonniers de guerre et les déportés ne sont pas rentrés. Donc évidemment, il y a au moins 53% du corps électoral féminin brusquement. Et au mois de septembre, ce sont les deux scrutins, puisque c'est à deux tours, des élections cantonales. Donc voilà. Puis après, octobre, il y aura les élections, des référendums et élections législatives. Alors, tout d'abord, nous ne sommes pas les premiers. Loin de là. Ça fait déjà, depuis le début des années 20, que les Allemandes, les Américaines, les Britanniques et bien d'autres ont le droit de vote. Nous ne sommes pas les derniers non plus. Après nous, il y aura les Italiennes, les Belges, les Grecs et, bon dernière, les Suissesses. Les Suissesses, il faut préciser, des cantons germanophones des Alpes, parce que la Suisse francophone avait donné plutôt le droit de vote aux femmes. Alors, pourquoi quand même si tard pour un grand pays qui se veut modèle démocratique ? Il faut préciser une chose très claire. Par deux fois, après la Première Guerre mondiale, donc au début des années 20, et puis en 1936, par deux fois, la Chambre des députés a voté le droit de vote des femmes. Et les deux fois, c'est le Sénat qui s'est opposé. Alors le Sénat, ce ne sont pas des élus au suffrage universel. Il représente à l'époque surtout les campagnes et les petites villes. Ce sont des hommes d'un âge déjà certain, puisqu'il y a un âge minimum pour être sénateur. Et il y a une forte majorité de droite et de centre. Alors, la droite, peut-être au niveau de réflexes patriarcaux, n'est pas très favorable sans être viscéralement opposé. Non, c'est le parti radical qui ne veut pas accorder dans les années 20 et 30 le droit de vote aux femmes, parce que le parti radical est éminemment laïque. C'est un parti de la moitié sud de la France. Il est extrêmement laïque, il est centré sur Lyon et Toulouse. Et les radicaux sont persuadés que les femmes voteront, puisqu'on vote le dimanche, elles voteront en fonction de ce que le curé leur dira. Donc, pour ne pas perdre des places municipales, députés, sénateurs, etc., c'est le Parti radical qui s'oppose, mais même en 1944, à l'Assemblée consultative à Alger, dirigée et impulsée par le général de Gaulle, c'est René Cassin qui est le chef du Parti radical, c'est lui qui, en 1947, va rédiger la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec Madame Roosevelt, c'est René Cassin qui est un des très rares à s'opposer, ça m'a été confirmé par d'anciens élus ou d'anciennes personnalités qui étaient donc à cette assemblée consultative à Alger qui, fin 44, rédige l'article 17. C'est un communiste, Fernand Grenier, qui rédige cet article qui, précisons-le, donne le droit de vote et rend les femmes éligibles, parce que dans l'histoire, ça n'a pas toujours été simultané. Je pense à l'Angleterre, hein. Dans les années 20, les femmes avaient le droit de vote, souvent, il fallait attendre 25 ans d'ailleurs, mais elles ne pouvaient pas être élues. Là, c'est électrice et éligible. Voilà.
Et alors, où se prend la décision et par qui ?
Bien, c'est cette assemblée consultative réunie à Alger avec tous les partis non collaborationnistes. C'est la volonté du général de Gaulle en 1944. Et ça s'applique donc en 1945, au moment de la libération et puis évidemment après.
Alors, ce vote a-t-il donné lieu à de nombreuses femmes mères ?
Eh oui, c'est une bonne question, puisque le premier scrutin, ce sont les municipales. Eh bien, on a fait le compte, parce que c'est facile. 2% des maires des 36 000 communes de France, entre 36 000 et 37 000 à l'époque, 2% ont été des dames.
Est-ce que la campagne électorale a été mouvementée, animée ?
Oh, mouvementé peut-être pas, mais animé, oui, parce qu'on sait depuis le mois de février-mars qu'il va y avoir ces premiers scrutins, que c'est la première fois qu'on vote après-guerre. Et les élections précédentes, c'était 1936, donc pendant 9 ans, il n'y a pas eu de consultation électorale en France. Alors, il est évident que les partis d'extrême droite sont totalement éliminés du paysage politique parce qu'ils sont taxés de collaborationnisme, ce qui n'est pas totalement faux, que les partis de droite n'osent pas présenter grand monde et que, au fond, ça se joue entre trois forces principales. Bon, il y en a d'autres. Il y a quelques forces, surtout locales, issues de la résistance, surtout dans les régions où la résistance a été extrêmement efficace. Et ils vont être à égalité. Hein, pendant ces scrutins de l'année 45, ils vont faire quasiment 25% chacun. C'est l'ancien parti socialiste qui s'appelle SFIO à l'époque. C'est le parti communiste, qui bénéficie de son implication à partir de 1941-42 dans la résistance. Et c'est un nouveau parti qui n'a jamais existé en France et qui va atteindre très vite, entre 24 et 26%, c'est le MRP, Mouvement Républicain Populaire, qui est un mouvement ouvertement catholique, qui va avoir donc la bénédiction, sans jeu de mots, et de la papauté, et des évêques, des archevêques et des prêtres, de telle sorte que la campagne pour les municipales est assez vigoureuse, en particulier lorsqu'il y a la liste communiste et la liste MRP, les communistes n'étant pas au niveau idéologique favorable à une quelconque religion. Donc, disons que les prêtres, les couvents, etc., surtout dans les zones à forte pratique religieuse, c'est une grande partie de la Bretagne, c'est la Vendée, c'est le Pays Basque, c'est l'Est et le Sud du Massif Central, sont les Savoies. Bon, il y a des régions où la campagne est très affirmée, bien que la guerre ne soit pas terminée. Enfin, elle se termine le 8 mai pour l'Europe. Donc, c'est le retour à la démocratie.
Et alors, avec du recul, est-ce que le droit de vote accordé aux femmes a changé le paysage politique ?
C'est une question importante que même des historiens se posent encore maintenant, parce que on a des sondages, évidemment, ça existait à l'époque, mais on n'a aucune preuve. Il n'y avait pas des bulletins roses et des bulletins bleus, donc ce qui aurait été très délicat, parce que dans les bureaux de vote où il y avait très peu d'électeurs, il n'y avait plus de secret dans ce cas-là. Mais on ne peut que le faire par sondage ou par étude de comportement politique. Ça a été fait par pas mal de sociologues, par des historiens également. Et d'abord, on a constaté que le taux de participation était très important et à égalité homme-femme. Par contre, dans les années 60, les hommes voteront beaucoup plus que les femmes, jusqu'à 12% d'écart. Par contre, ça redevient égalitaire dans les années 70-80. Les femmes continuent les études, c'est plus uniquement la femme au foyer, etc. Alors, que donnent les études historiques ? Les deux tiers des femmes ont voté comme leur famille, en définitive comme leur mari. toutes les femmes n'étaient pas mariées, évidemment. Celles qui n'étaient pas mariées, les veuves, et puis encore une fois, au mois de mai, les déportés et prisonniers n'étaient pas rentrés. Mais c'est à peu près acté. À peu près les deux tiers ont voté comme leur mari, ce qui fait qu'il n'y a aucun bouleversement du paysage politique. D'après des études et des sondages faits par des journalistes également, qui ont interrogé les femmes, il y en a encore, qui racontent leur premier vote. Alors, comme toujours, il y a celles qui disent on vote comme papa ou maman. Pas maman à l'époque, mais papa, oui. Ça a été le cas dans mes deux familles, paternelle et maternelle. Il y avait une tradition de vote et les femmes ont respecté cette tradition. Hein. Et il y avait une... Alors ça, les historiens sont à peu près d'accord. Une prime envers les candidats qui se réclamaient du général de Gaulle. C'est une façon de remercier le général de Gaulle de son implication dans la résistance et dans la victoire. Et puis, certains sociologues disent que pour les femmes de l'époque, le général de Gaulle ne représentait pas un risque d'aventure que représentait le Parti communiste ou que pouvaient représenter des forces qui reviendraient sur le devant de la scène plus ou moins rapidement. Bon. Mais non. Et d'ailleurs, quand j'étais à la fac, donc au début des années 70, notre professeur d'histoire nous avait... Parce que c'était au programme. Et notre professeur d'histoire nous avait dit non, il n'y a eu aucun bouleversement. Voilà.
Eh bien, merci Jean Saraméa.
Petit souvenir.